connaissant ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée, quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Barthas si vous nous rejoignez. Nous sommes le mardi 13 janvier et il est tout juste midi et des poussières. L'heure de passer un moment ensemble en direct via les ondes du 107FM ou via les internets sur radiobarthas.net. Léo est avec moi en studio, salut Léo.
Salut Raphaël, c'est toujours un plaisir de refaire un coucou dans cette émission.
Un plaisir partagé. Alors Léo, chères auditrices, chers auditeurs, est-ce que vous connaissez le point commun entre moutons, chèvres, vaches, camélidés, yaks, chevaux, rennes et buffles ? Ce n'est pas le début d'une blague, non, c'est une vraie question. Leur point commun, c'est que ce sont des animaux qui peuvent être élevés par des éleveurs pastoraux qui pratiquent donc le pastoralisme. Et d'ailleurs, ils en élèvent, de tous ces animaux susmentionnés confondus, 1 milliard à travers le monde. Alors si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que l'Organisation des Nations Unies a désigné 2026 comme l'année internationale des parcours et du pastoralisme. Entre Causses et Cévennes, on est plutôt concerné par la question, mais nous ne sommes pas les seuls. Des steppes d'Asie centrale, de la savane africaine, des Pyrénées et des Alpes, des Andes jusqu'aux grandes plaines des États-Unis d'Amérique, les terres du pastoralisme représentent environ la moitié de la surface terrestre émergée. L'année internationale est l'occasion de mettre en avant et de sensibiliser au rôle vital des parcours et des éleveurs pastoraux, que ce soit dans la production alimentaire durable, la préservation des écosystèmes, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets. De nombreux événements seront organisés partout dans le monde en 2026 et bien sûr ici aussi en Sud-Lozère. On va en parler plus en détail avec nos invités dans quelques instants, mais d'abord, cette année internationale étant à l'initiative de la Mongolie, grande terre de pastoralisme s'il en est, c'est l'occasion de découvrir un peu de musique mongole. Après quelques recherches sur internet, je suis tombée sur le tout premier groupe de rock de Mongolie, Soyol Erdene ou Soyol Erden, je ne sais pas exactement comment on prononce. Le groupe tire en tout cas son nom d'un vieux morceau folklorique mongol qu'on pourrait traduire par « bijou culturel » ou « trésor culturel ». Et l'histoire est assez marrante. Le groupe a été fondé en 1971 à l'initiative du ministre de la Culture de l'époque qui voulait voir émerger l'équivalent mongol des Beatles. 4 jeunes diplômés de l'école de musique d'Oulan-Bator ont alors lancé le groupe et ils ont sorti un unique album. On en écoute tout de suite le premier titre traduit en anglais par « Song of My Happiness ».
Oh,
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Et oui, vous êtes bien sur Radio Barthas, on écoutait à l'instant le titre Song of My Happiness de Soyol Erden, tout premier groupe de rock de la Mongolie. Mongolie, terre de pastoralisme, et c'est le sujet du jour dans Midi et des Poussières, 2026 ayant été désignée année internationale du pastoralisme par les Nations Unies. Et pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie de deux invités qui viennent de me rejoindre en studio. Julie Hébrard, bonjour.
Bonjour.
Alors toi, tu es chargée de mission agro-pastoralisme à l'entente interdépartementale des Causses et des Cévennes.
C'est ça.
Et Nathalie Blétry, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es ingénieure formatrice en agronomie à l'Institut Agro sur le campus de Florac.
Tout à fait.
Eh bien, bonne année du pastoralisme à toutes les deux.
Eh bien, merci. Merci. Bonne année également.
Alors vous, c'est vraiment le cœur de votre métier, de vos activités, le pastoralisme. Et voilà, cette année-là, elle met votre discipline sous les projecteurs. Quel effet ça vous fait? Qu'est-ce que vous attendez de cette année?
Nathalie, je ne sais pas si tu veux commencer. Je peux commencer par dire que déjà, c'est une bonne chose que ce soit mis en avant. Alors après, les années internationales, elles permettent pas toujours forcément de mettre vraiment en avant un thème. Il y a toujours un thème qui est mis à l'honneur, mais parfois, ça fait un peu flop. Et là, cette année, on se rend compte que c'est vraiment super chouette avec le pastoralisme parce qu'il y a beaucoup de mobilisation, que ce soit à la fois au niveau local, vraiment dans les territoires, au niveau national, donc là, je parle pour la France, mais il y a aussi plein d'initiatives dans différents pays, et au niveau mondial, où beaucoup d'acteurs du pastoralisme se rencontrent, se coordonnent, mettent en place des choses. Donc on voit que ça prend et moi ce que j'en attends c'est beaucoup de choses. Déjà voilà, de faire du lien avec tous ces différents acteurs et de valoriser le travail des éleveurs, des éleveuses sur les territoires et à travers le monde. Et tout ça, que ça puisse permettre au final en faveur de plaider pour le pastoralisme et notamment d'avoir des reconnaissances dans la sphère politique pour défendre ce mode d'élevage et qu'il soit reconnu à juste titre.
Eh bien, que dire de plus? C'est tellement bien dit par Julie. Je voulais juste ajouter que moi, je suis donc formatrice en agronomie à l'Institut Agro à Florac. Donc, en fait, nous, on fait de l'accompagnement de profs de lycée agricole et ils viennent ici aussi se former lors de courts stages de formation continue. Avec ma collègue Alice Garnier, nous deux, on est dévolus en partie au pastoralisme. Et donc, pour nous, ça fait beaucoup de sens parce que c'est une reconnaissance du travail qu'on fait tous les jours. C'est pas tous les jours facile de défendre le pastoralisme en France. Il y a beaucoup de systèmes qui sont plus intensifs que ça et qui sont plus céréaliers ou dans les grandes plaines. Et donc, quand on parle du pastoralisme, souvent, c'est quelque chose en France qui est un petit peu anecdotique. Et quand tu dis, Raphaël, tout à l'heure, que ça représente quand même la moitié des surfaces pastorales, enfin des surfaces dans le monde, on se sent un petit peu réconforté, nous, en France, et on se sent plus légitimé de porter ce thème du pastoralisme. Et puis, j'ajouterais que ça nous permet de bosser en synergie avec le territoire, puisque depuis qu'on a commencé à préparer cette année, avec l'Entente ou avec le parc des Cévennes, on s'est vu sur plusieurs réunions et ça nous permet de mieux se connaître, de travailler ensemble et ça, c'est chouette.
Alors peut-être pour rappeler, j'imagine que les gens qui nous écoutent d'ici savent à peu près comment comprendre ce terme pastoralisme, mais est-ce qu'on pourrait quand même le redéfinir ? Commencer.
Oui, carrément. Et donc du coup, le pastoralisme, c'est vraiment un mode d'élevage qui valorise les ressources fourragères spontanées naturelles. Donc ce que ça veut dire, c'est que les territoires qu'on appelle de parcours, là où s'exerce le pastoralisme, ce sont vraiment des zones qui sont très peu mécanisables. On différencie par exemple des prairies bien grasses qu'on a dans certaines zones. Voilà, les terres de parcours où il y a du pastoralisme, ça peut être des landes arbustives, des pelouses sèches, peu productives en termes agronomiques, mais qui sont valorisées par la dent de l'animal. Et donc, effectivement, à l'échelle de la planète, on estime à peu près à 50-54% de zones qui seraient des surfaces pastorales, donc de parcours. Et pour faire un petit focus Causses et Cévennes, sur le territoire inscrit des Causses et Cévennes, on a environ 50% du territoire qui est en surface agricole utile, donc qui est utilisé pour l'agriculture, ce qui est énorme. Et sur ces 50%, on a 80% qui sont des parcours. Donc voilà, vraiment, en tout cas sur les Causses et Cévennes, on est sur un territoire très, très pastoral, de par la géomorphie du sol, la géologie, le territoire.
Et donc quand on dit parcours, en fait, on pense vraiment à tout l'espace qui va être utilisé par les animaux pour se nourrir, se déplacer, c'est ça ?
Exactement, voilà. Et donc, comme je disais, vraiment très peu mécanisable. Donc pour donner une image, dans parcours, on inclut voilà, des petites landes avec du buis, un peu... quand on regarde de l'extérieur, on pourrait se dire bah, c'est un petit peu une friche. Bah ouais, mais en fait, ça peut paraître une friche, mais c'est pâturé par les animaux, c'est gardé ouvert par le travail des éleveurs et des éleveuses, et ça abrite beaucoup de biodiversité aussi, et ça a beaucoup d'aménités positives pour la société dans son ensemble.
Voilà, et là, tu citais la biodiversité, c'est aussi des terres qui sont pour l'environnement très importantes, notamment parce qu'elles permettent la fixation du carbone et la régulation de l'eau, donc c'est aussi des espaces à préserver, pas que pour les pratiques agricoles, mais aussi pour l'environnement.
Totalement. Et ça, bah, sur ce territoire-là, par exemple, ici, on est en réserve de biosphère. Donc, ça montre vraiment que ces territoires qui sont à majorité entretenus par le pastoralisme, les animaux, et donc qui forment ces parcours, sont vraiment voilà, réservoirs de biodiversité et abritent de nombreuses espèces, à la fois floristiques, faunistiques. Et ça, c'est reconnu. Et il y a le parc national des Cévennes aussi qui en atteste sur ce territoire.
Et au niveau des animaux domestiques, ça, c'est aussi de la diversité parce qu'il n'y a pas seulement des moutons qui utilisent des surfaces pastorales, il y a aussi des chèvres, il y a aussi des chevaux, il y a aussi des vaches, majoritairement des vaches à viande, plus que des élevages laitiers quand même. Et puis, je crois qu'il y a aussi quelques élevages de bisons, voire même de dromadaires, il me semble, sur l'Écosse. Voilà, on a aussi ces choses-là, mais ça concerne beaucoup d'espèces animales, en fait.
J'ai oublié de citer les bisons et les dromadaires dans mon introduction. Alors, le pastoralisme, c'est une pratique donc, à travers le monde qui est plurimillénaire, qui existe vraiment depuis très très longtemps, mais c'est loin d'être une pratique folklorique parce que ça concerne vraiment une quantité d'élevages. On a cité déjà quelques chiffres, on peut en citer d'autres. Selon l'Association française de pastoralisme, il y a 60 000 exploitations en France qui pratiquent le pastoralisme, donc c'est quand même 18% des élevages et ça rassemble 22% du nombre total des animaux, donc c'est des chiffres qui ne sont pas extrêmement fiables. Parce que
c'est ça, bah ça permet de donner un ordre d'idée quand même pour se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de surfaces pastorales et beaucoup d'élevages pastoraux. Et après, la bataille des chiffres, c'est toujours un petit peu le même sujet au niveau du pastoralisme. C'est qu'en fait, comment qualifier une exploitation de 100% pastorale ? Voilà, on ne peut pas trop dire. Il y a des exploitations qui utilisent à la fois des prairies semées, des prairies semi-naturelles, des prairies totalement naturelles et des parcours. Et donc de dire, effectivement, elles sont pastorales, mais dans quelle mesure ? Si les parcours représentent que 10%, est-ce que c'est vraiment pastoral ? Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire un peu des chiffres pour donner effectivement un ordre d'idée. Et c'est pour dire que voilà, les exploitations pastorales en France, comme disait Nathalie tout à l'heure, c'est pas négligeable, ça représente beaucoup d'élevage, c'est très important. Et c'est pas important seulement pour ces exploitations-là, c'est important pour tout le monde aussi, mais on pourra en reparler après.
Et je pourrais rajouter que beaucoup d'exploitations font du pastoralisme sans le savoir, sans savoir que ça s'appelle comme ça en fait. Il y a beaucoup de fermes en France qui vont exploiter par exemple 5 ou 10 hectares de land au milieu de leur système et c'est déjà du pastoralisme. Mmh. Donc il y a beaucoup de gens qui sont concernés en fait.
On a évoqué un petit peu les enjeux environnementaux, il y a aussi voilà, donc le patrimonial, mais Nathalie, est-ce qu'on pourrait rentrer aussi un peu dans le détail des enjeux en ce qui concerne vraiment les agriculteurs, les éleveurs ? Quel est l'enjeu pour eux aujourd'hui ?
Alors l'enjeu, il y a effectivement un enjeu économique, c'est-à-dire que ces surfaces qui sont valorisées dans tout le Massif central et beaucoup en Méditerranée, c'est le seul moyen en fait d'installer des agriculteurs. Il faut bien exploiter ces surfaces et il y a quand même la PAC qui aide, mais du coup ça fait des revenus économiques pour les agriculteurs. Ça entretient les paysages aussi, c'est super important dans des régions touristiques comme la nôtre. Il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas de pasteurs et s'il n'y avait pas de surface pastorale, bah, tout serait fermé par des forêts, des friches et ça serait beaucoup moins drôle de se promener et de randonner comme c'est le cas actuellement.
Et ça augmente aussi les risques d'incendie.
Et ça augmente les risques d'incendie. Et puis ce qu'il faut préciser aussi, c'est que dans le cadre de la transition agroécologique dans laquelle on est engagé, là, pas assez vite au goût de beaucoup de gens, mais en tout cas pour lutter contre le changement climatique, eh bien le pastoralisme est un super atout. Puisque ça permet de valoriser de façon extensive et suivant des savoir-faire qui ont pu être un petit peu oubliés aujourd'hui et qui permettent de travailler de façon plus écologique, plus résiliente et meilleure pour le climat.
Et donc, il y a un enjeu aussi, en tout cas, l'importance de former les bergers et les éleveurs.
Tout à fait. Merci pour cette perche qui concerne mon métier. Donc, effectivement, il y a un gros focus actuellement sur la formation de bergers, qui est encore renforcée par l'aspect prédation, hein, puisqu'on sait que... le fait que les loups attaquent maintenant un peu partout, ben ça encourage et ça oblige à avoir des bergers sur le terrain qui gardent et qui protègent les troupeaux. Donc, nous, on se préoccupe beaucoup de la formation des bergers en France. On fait partie de programmes par ailleurs qui s'appellent des cases d'art, hein, qui sont subventionnés par des fonds du ministère de l'Agriculture, qui permettent d'étudier et de former en lycée agricole, pas seulement en école de berger, mais aussi en lycée agricole, suivant des modules dans différentes formations, à l'importance du pastoralisme et du métier de berger.
Et il y a aussi l'importance de sensibiliser le public ou les personnes qui vont arpenter ces paysages pastoraux, Julie.
Totalement. Eh bien oui, du coup, juste pour rappeler, je ne l'ai pas fait en introduction, donc l'entente interdépartementale des Causses et Cévennes, qui est donc la structure de gestion du bien UNESCO Causses et Cévennes, qui a été inscrite sur la fameuse liste du patrimoine mondial en 2011, en tant que paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a vraiment une reconnaissance du fait que les éleveurs, les éleveuses, les pasteurs et les troupeaux ont façonné des paysages et des territoires très spécifiques à travers l'activité agricole qu'ils ont menée depuis des millénaires, puisqu'on sait que les premières traces d'installation agricole datent de la sédentarisation sur ce territoire, donc du néolithique, donc il y a 5000 ans, qu'on a de manière ininterrompue des troupeaux qui parcourent les paysages des Causses et Cévennes. Et donc effectivement, c'est très très important d'en parler, de le valoriser. Et nous, à l'Entente, on a une grosse partie de notre travail qui se joue autour de la médiation, auprès du grand public, auprès des élus, auprès des habitants, auprès de tout un tas de publics, pour expliquer ce que je viens de dire, et également toute la partie patrimoniale, ce que tu disais, Raphaël. Donc nous, on est inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et en fait, on a tout un travail aussi de faire l'inventaire en fait, du patrimoine en lien avec l'activité agricole qui est présent sur le territoire. Ça va des caselles, les abris de bergers, aux dolines, les seuls endroits un peu sur les côtes où on peut cultiver, à tout un patrimoine lié à l'eau, par exemple, les béales, etc. Enfin voilà, la liste est longue. Et donc, on parle de tout ça parce que ce sont vraiment des marqueurs identitaires de ce territoire qui est très spécifique et qui montre l'évolution du paysage agricole aussi au fil des siècles.
2026, donc année internationale du pastoralisme partout dans le monde et ici en Sud-Lozère, il y aura beaucoup d'événements qui vont être organisés et donc il y a différents types d'événements, hein, pour différents publics. Donc pour le grand public, comme tu l'évoquais à l'instant, Julie, l'importance de sensibiliser le grand public. Il y aura aussi des événements pour les professionnels et des événements à destination des décideurs. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter un peu ce qui va se passer ici, ce que vous organisez?
Eh ben, peut-être qu'on commence par le national et comme ça après on zoom et on arrive au premier rendez-vous qui arrive très prochainement sur les Causses et Cévennes. Alors au niveau national, il y a un peu quatre gros jalons, sachant qu'il va y avoir d'autres choses. Mais ce que je peux citer, c'est un événement qui arrive en mars très prochainement, que d'ailleurs l'Entente co-organise avec l'UMT Pastoralisme, qui regroupe l'INRAE, l'Institut Agro de Montpellier et l'Institut de l'Élevage. Et donc c'est effectivement un séminaire scientifique qui s'appelle Pastoralisme, regard croisé pour l'avenir, qui vise à partager les travaux en lien avec le pastoralisme sur tout un tas de sujets, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, ça va de la défense incendie à la biodiversité, à l'emploi des bergers, à tout un tas de thématiques. Donc ça aura lieu à l'Institut Agro de Montpellier, avec des sorties de terrain en Causses et Cévennes notamment, et dans l'Aude. En avril, on aura un gros colloque sur la transhumance qui est organisé au MUCEM de Marseille par le CORAM et la Maison de la Transhumance, et il y aura notamment des délégations d'autres pays qui seront présentes pour parler des sujets transhumance. Et ensuite, ce que j'ai oublié de citer, qui arrive très bientôt, c'est le Salon international de l'agriculture, bien sûr, à Paris. Et donc là, voilà, il y aura des stands, plusieurs stands qui vont parler pastoralisme et on sera présents notamment.
Vous y serez en tant que l'Entente?
On y sera l'Entente, oui. On sera à la fois sur le stand du CORAM, justement, et sur le stand du département de la Lozère, qui a un stand. Donc voilà, on y sera pour parler pasto. Et en plus local, plus proche en tout cas, à Cournon d'Auvergne, tous les ans, il y a le sommet de l'élevage, Et donc cette année, ça aura lieu comme tous les ans en octobre. Et il y a 100 mètres carrés cette année qui vont être dédiés entièrement au pastoralisme, sur lesquels nous serons présents avec tout un tas d'acteurs pastoraux français. Ça va des associations, donc celles que tu citais par exemple, l'Association française de pastoralisme, à celles dont je viens de parler, du Coram, à des services pastoraux de différents massifs, mais pas que, aussi les Vosges, parce qu'on oublie que le pastoralisme, ça s'exerce pas que dans les territoires de montagne, c'est aussi dans d'autres territoires où il y a des zones dites de parcours. Par exemple des tourbières, des zones humides, des marais, des prés salés, etc. Donc ça c'est un peu les quatre gros jalons, mais il y en aura d'autres. Il y a les Assises de la Montagne à Sallanches en juin, enfin voilà, ça c'est au niveau national. Et après en local, Nathalie ?
Eh bien nous on va faire le démarrage en fait, voilà. À l'Institut Agro, ben, dès ce jeudi soir, donc je crois que c'est le 15,
oui.
Ça commencera à 18h30, donc c'est une soirée grand public, mais à laquelle vont assister nos licences pro qui sont formées justement à l'interface entre l'agriculture et puis la préservation des zones humides, hein, les licences GENA. Donc on aura des petites présentations théoriques, mais peu. On va pas trop insister là-dessus. En fait, le thème de cette journée, c'est qui sont les pasteurs et quelles sont les surfaces qu'ils utilisent. Et donc, on a invité des bergers, bergères, éleveurs, éleveuses qui vont venir témoigner, nous dire qui ils sont, retracer leur parcours et en même temps nous indiquer quelle surface ils utilisent avec leurs animaux. Il y aura également plusieurs petites vidéos qui présenteront des bergers et des éleveurs d'ailleurs et aussi avec d'autres espèces, notamment des chevaux, en plus des moutons et des chèvres. Et puis, ça sera suivi d'une petite grignote. Donc, cet événement, il est co-organisé entre l'Institut Agro et le Parc des Cévennes. Et donc, il y a des produits de la marque Parc qui seront présentés à cette occasion, des produits locaux.
Donc, c'est ce jeudi 15 à 18h, donc premier événement très local. Et il y en aura d'autres par la suite ?
Alors, il y en aura d'autres. Je vais leur repasser la parole à Julie.
Effectivement, je peux en citer quelques-uns. Après, l'idée, c'est que voilà, nous, depuis un an, on fait un peu ce travail en partenariat avec tous les acteurs du territoire d'insuffler une dynamique pour inviter toutes celles et ceux qui le souhaitent à porter un événement en lien avec le pastoralisme. Ça peut être une commune, une association, une structure comme nous, comme l'Institut Agro.
Même hors de l'année internationale.
Même hors de l'année internationale. Alors, c'est vrai que là, ça permet de mettre un coup de boost. Et donc, on dit, dans le cadre de l'année internationale, allez-y. Mais effectivement, c'est hyper important de le rappeler que tout ne va pas s'arrêter en 2026 et que le pastoralisme, ça continuera bien après, et notamment avec la prochaine programmation de la politique agricole commune qui arrive en 2027-2028 et où on est mobilisé aussi sur ce que je disais tout à l'heure, de faire du plaidoyer politique. Donc voilà, pour revenir en local, on a aussi là, fin janvier, du coup, le Floracopoli, le festival de jeux de Florac, et il y aura un pôle jeu du pasto qui sera justement à l'entente Cossé-Cévennes avec le PETR Sud-Lozère et avec Terre de Liens. Donc voilà, ça ce sera l'occasion de jouer, de découvrir le pastoralisme par le jeu. Après, en avril, il y aura des concerts d'un artiste qui s'appelle Pascal Charrier, qui joue de la guitare et qui fait une espèce de road trip en fait à cheval, une tournée décarbonée, il appelle ça. Et du coup, il va venir jouer à Masse-Méjean notamment et à Vialas.
Il est super, hein, j'ai eu l'occasion de l'écouter en avant-première, c'est génial.
Voilà, donc il y a deux dates qui sont programmées sur le territoire déjà. Et après, l'été, là, c'est un foisonnement d'événements parce que tout le monde a les animations estivales, autant le Parc des Cévennes que d'autres structures que nous. Donc là, voilà, il y aura plein de choses, des projections de films, etc. En septembre, il y aura un événement un peu d'ampleur à Florac qu'on est en train de monter avec le Parc National des Cévennes, qui prendra une forme de forum, festival, quelque chose, avec visite à la ferme, marché de producteurs, table ronde, prise de parole d'éleveurs, de spécialistes, etc. Donc ça, voilà, c'est en train de se décompter. En tout cas, ça aura lieu normalement fin septembre. Et après, ce que je peux dire aussi, c'est au mois de novembre, le musée Maison Rouge Vallée-Cévenole, à Saint-Jean-du-Gard, prévoit de faire une semaine dédiée au pastoralisme, avec beaucoup d'animations pour les classes, notamment scolaires, et aussi avec des spécialistes sur la transhumance et sur d'autres sujets. Donc voilà, plein d'animations à venir en local. Et juste pour dire que vous pouvez retrouver tout ça du coup sur une carte interactive qu'on a créée où vous pouvez à la fois voir ce qui se passe mais ajouter votre propre événement également en lien avec le pastoralisme. Cette carte, elle est sur une adresse qui s'appelle aipp.gogocarto.fr.
Gogo.
Mais gogocarto, exactement. Et vous pouvez retrouver ça en tout cas sur notre site internet, sur le site de l'Entente Cossé-Cévennes. Il y a une page année du pastoralisme où elle est dessus.
Et donc, tous ces événements qui sont portés par vos structures impliquent aussi la participation active des professionnels, des éleveurs, des bergers qui seront présents. Et ça a été facile de les mobiliser, de les
Alors, impliquer. Très facile, en fait. Il a suffi d'un petit coup de fil à plusieurs d'entre eux qui, spontanément, ont dit « Ah ouais, je viens, j'ai pas du tout ramé ». Donc, en fait, ils sont heureux aussi de venir porter leur parole et de raconter qui ils sont et leur quotidien. J'ai vraiment senti que c'était important pour eux.
Effectivement, l'objectif, c'est vraiment que cette année 2026 ne se passe pas sans eux et sans elles, parce que le but, c'est de valoriser leur travail, leur profession, leur pratique et leur vision autour de ces enjeux du pastoralisme. Donc, c'est vraiment super important qu'elles soient mobilisées, même si on sait que voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps aussi pour participer à tout un tas d'événements, parce qu'il va y en avoir pléthore. Mais l'idée, c'est bien qu'ils soient à la fois mobilisés pour venir, pour participer et pour co-construire avec nous certains événements. Et en tout cas, on s'y attelle au maximum, ouais.
Qui de mieux que eux pour parler de ça, en fait. C'est leur métier, c'est eux qui savent faire.
J'essaierai de les inviter pour la prochaine émission sur ce sujet. Merci beaucoup, en tout cas à vous deux, Julie et Nathalie, d'être venues nous présenter tout ça. Et on a hâte de tous ces événements qui ont l'air vraiment passionnants.
Merci.
Merci Raphaël.
Vous êtes bien sur Radio Bartas, 107FM et radiobartas.net. On écoutait la pastorale en ré mineur de Germaine Taillefer. Alors en musique, la pastorale, c'est un morceau faisant allusion à une scène champêtre. Je ne sais pas si cette pièce vous aura évoqué cela, mais voilà, c'était pour rester dans le thème de l'année internationale du pastoralisme et aussi pour pouvoir raconter une anecdote rigolote sur Germaine Taillefer, compositrice française née en 1892. Son vrai nom était Germaine Taillefer. Elle a changé son nom, on peut le comprendre, mais là où c'est marrant, c'est qu'en fait, ses deux parents, qui n'étaient pas de la même famille, s'appelaient Taillefer tous les deux. Sa mère, née Marie-Apolline Désirée Taillefer, avait été contrainte de rompre ses premières fiançailles pour épouser le jeune Eugène Arthur Taillefer, que son père lui avait choisi pour la simple raison qu'ils avaient le même patronyme. Mais cela n'a pas suffi à faire naître l'amour entre les deux Taillefer. Ce mariage arrangé fut apparemment des plus malheureux.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et j'annonce un autre événement en lien avec l'année internationale du pastoralisme que nous n'avons pas cité avec mes invités. C'est le lundi 26 janvier à 14h à la salle des fêtes du département de la Lozère. Une conférence de presse donc pour le lancement officiel de l'année internationale du pastoralisme, des parcours et des éleveurs pastoraux. Voilà, et un autre rendez-vous à vous partager. chères auditrices et auditeurs, d'autant que j'ai oublié de l'inclure dans les annonces de Barthas de ce début de semaine. Donc ce n'est que justice de l'annoncer ici. C'est la projection ce soir à la salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française du documentaire « Demain, la vallée » de Jérôme Prudent. Alors le film suit une vallée en Ariège où a été menée une expérience scientifique dans le cadre du programme européen JustScapes, un projet de recherche-action participative sur la justice climatique en montagne qui est mené par l'INRAE. Alors voilà, face au changement climatique, dans ce film, on voit des citoyens et des citoyennes, des cultivateurs, éleveurs, jeunes et moins jeunes, parents, néo-ruraux et acteurs du territoire qui accordent leur voix pour décider ensemble des transformations justes de l'usage de leurs terres. On écoute tout de suite la bande-annonce du film.
Toi, la montagne, tu es là pour toujours, un témoin de tous ces bousculements humains si importants à nous, mais si insignifiants à la longue.
Vous avez pu dégager du temps pour ce projet, c'est magnifique. C'est important de pouvoir dire les choses.
Le projet de recherche JustScapes, c'est un projet de recherche qui s'intéresse aux transformations attendues des territoires ruraux pour contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Moi, je pense que toutes les lois qu'on a, qu'on nous impose, ça ne s'adapte pas forcément à tous les agriculteurs de la France.
Là, on a un conflit sociétal qu'il va falloir qu'on règle collectivement.
On se réfugie dans les choses qu'on ne peut pas changer pour éviter d'élaborer des formes d'existence en commun.
On a tout. Avant, ils avaient tout et ils étaient vachement plus nombreux. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
Ils ne bouffaient que des patates.
Eh bien, ils ne bouffaient que des patates.
Non, non, non. Mais après, est-ce qu'on veut couper des forêts, par exemple, pour avoir plus de producteurs? C'est une autre question. Quoi.
On a des belles idées, mais il ne faut pas que ça s'arrête là.
Même si c'est un peu utopique, même si... Et alors, on peut aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où vraiment on va nous mettre devant le nez que ça ne marchera pas. Mais si dès le début, on se dit « Ah, ben ça ne marchera pas », alors c'est même pas la peine d'écrire des projets.
Souvenez-vous, tout le monde disait à la vallée que c'était impossible. Un jour, quelqu'un est arrivé, il ne savait pas, et il a fait.
Demain la vallée, film documentaire de Jérôme Prudent, c'est donc ce mardi à 18h à la salle polyvalente de Saint-Étienne-Vallée-Française. La projection est organisée par le syndicat des Hautes-Vallées-Sévenoles et le foyer rural Le Ginestel. Et il propose, donc en écho à ce processus participatif, de débattre après le film des Hautes-Vallées-Sévenoles et de leurs évolutions à imaginer ensemble.
Midi et des poussières.
Et un nouveau rendez-vous dans Midi et des Poussières, une nouvelle chronique, celle de Max, qui vient nous parler de musique en nous faisant écouter un morceau qu'il affectionne particulièrement. Alors on n'a pas encore le nom de cette chronique, qui sera a priori hebdomadaire, tous les mardis, mais ça va arriver. Et voici donc le tout premier épisode, fraîchement enregistré hier soir dans les studios de Radio Barthas. Salut Max.
Bonsoir.
Alors, moi, j'ai passé une soirée au Volet Rouge il n'y a pas très longtemps et j'ai trouvé que tu passais de la super musique. Et donc, je t'ai proposé de venir un peu nous parler de musique de temps en temps sur Radio Barthas et tu as accepté, donc merci beaucoup.
Mais avec plaisir.
Et donc, ce soir-là, tu as justement passé beaucoup de morceaux d'une certaine Marie Laforêt.
Oui, tout à fait.
Et donc, aujourd'hui, tu es venue avec... un morceau à faire entendre, à partager avec les auditeurs, les auditrices de Radio Barthas. Et c'est aussi un morceau de Marie Laforêt.
Ben, c'est la chanteuse, oui, mais c'est une reprise. Comme quand elle a débuté, elle a fait beaucoup de reprises, comme ça se faisait un peu à l'époque. Enfin, c'est il y a longtemps. Faut dire que c'est pas nouveau, quand même. C'est pas une jeune chanteuse. D'ailleurs, elle est décédée depuis. Mais ouais, c'est un morceau, où, effectivement, que j'aime bien personnellement par rapport à sa voix. Parce que j'aime beaucoup sa voix, elle a un timbre assez spécial, et là, dans ce morceau-là, je trouve, on l'entend bien.
Et c'est quel morceau?
Marie Douceur, Marie Colère, c'est une reprise de Paint in Black des Stones.
Alors, on va l'écouter juste après, mais avant, moi, j'étais curieuse. Donc, t'aimes beaucoup Marie Laforêt, comment est-ce que tu l'as connue? Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu l'as entendue?
Oui, tout à fait. J'étais en famille, et ma mère, à l'époque, c'était dans les années 50, elle avait travaillé un peu sur Paris. Dans le milieu du cinéma, elle avait connu un peu tout. Elle avait connu certains chanteurs, etc. Et elle avait une opinion de une opinion sur beaucoup d'eux. Et effectivement, Marie Laforêt, elle avait traîné avec une bande de potes de l'époque dans les années 50 assez intéressante. Et quand on a eu la télé, à une époque, on est tombé sur un clip, un des premiers clips de Marie Laforêt. C'est là la première fois que je l'ai entendu.
Et t'as tout de suite aimé?
Ouais.
Et t'avais quel âge?
Oula, je savais pas, j'avais 10-12 ans.
Et depuis, tu t'es jamais lassé, tu continues de l'écouter?
Ouais, j'ai même des vinyles à la maison, etc. Mais enfin, après, effectivement, c'est plus très à la mode ce genre de chanson, mais je trouve qu'elle a une très belle voix, elle avait des très beaux yeux. Et elle a fait tout un tas de choses, elle a été actrice, autrice, chanteuse, enfin, une personne intéressante.
T'as eu l'occasion de la voir en concert?
Ah, hélas, non.
Eh ben, on va écouter le morceau tout de suite.
Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà jadis 100 000 fois sur tous les temps. Marie douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse. Marie colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles. Aime bien chanter des ballades, mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prendrait. Marie colère adore les éclats de voix, alors choisis entre les autres filles et moi. Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère est maintenant là devant toi. Marie douceur n'est plus qu'un souvenir déjà.
C'est intéressant cette espèce de gémissement qu'elle fait un peu avec sa voix là, à la fin du morceau.
Ouais, j'aime beaucoup le timbre.
Ouais, c'est un peu dissonant, un peu.
Mais elle, dans toute sa carrière, elle a fait beaucoup de reprises. Enfin là, c'est un peu du rock'n'roll, mais elle a fait beaucoup de reprises, un peu de folk, mais de différents pays. C'est complètement éclectique, mais elle adorait ça.
Et c'est elle qui écrivait les paroles de ses chansons?
Certaines, pas tout le temps. Elle m'a eu des pseudos, mais des fois c'était pas elle, des fois c'était elle, qu'on le sache ou pas. Mais...
Du coup, toi, tu la vois plus comme, pour reprendre le titre du morceau qu'on vient d'entendre, Marie douceur, Marie colère. Pour toi, elle évoque plus quelque chose de l'ordre de la douceur ou de la colère?
Je dirais de l'existence. Malgré ce, elle a un petit côté peut-être attendrissant comme ça, mais faut pas croire quand t'écoutes les paroles, c'est vraiment quelque. Elle a un côté féministe où quand elle parle d'amour ou de femme, elle se laisse pas faire. Elle a son avis et ça, elle arrive à l'exprimer.
Eh ben merci beaucoup Max d'être venu nous parler de ce morceau sur Radio Barthas.
Eh ben merci à toi.
Et j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir pour un prochain morceau.
Ça marche.
À bientôt.
À bientôt.
Midi et des poussières sur Radio Barthas.
Merci beaucoup encore une fois à Max. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et tous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve demain pour un prochain Midi et des Poussières.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.